Bonjour à tous, je vous propose de reprendre avec donc la conférence de Denis Poisat que j'ai l'honneur d'introduire ce matin. Je remplace mon collègue Julien Despois qui n'a pas pu être là et pour qui j'ai une petite pensée. Alors avant de rencontrer Denis Poisat, j'avais lu la plupart de ses travaux en bonne doctorante de l'époque que j'étais en sciences de l'éducation et qui m'intéressait déjà au champ du handicap. Donc je propose de revenir en quelques mots sur son parcours, sur les principales publications dont vous avez ici quelques exemples. Donc Denis Poisat est enseignant de formation. Il a travaillé pour le compte de différentes organisations internationales à l'étranger avant de s'engager dans un doctorat en sciences de l'éducation. Sous la direction de Charles Gardoux, un autre grand nom sur la thématique du handicap en sciences de l'éducation. Donc maître de conférence et puis professeur des universités à l'université Lyon 2. Il est membre du laboratoire ECP, qui veut dire éducation, culture, politique. Donc ses recherches se situent dans le champ de l'éducation comparée, aussi de l'analyse internationale. Il a étudié différents objets avec souvent comme focalisation les questions de marginalité en éducation. Et c'est ça aussi qui l'a amené donc à travailler sur l'éducation non formelle dans sa thèse notamment, qui a donné lieu à une publication chez l'Harmattan en 2003, et qui l'a amené aussi sur cette thématique du handicap, moi qui m'a du coup amené à croiser aussi ses travaux. Donc sur le handicap, il y a eu plusieurs publications qui ont un petit peu aussi marqué le champ. Vous en avez quelques-unes ici. On peut citer « Désingulariser le handicap » qui avait été coordonné avec Charles Gardoux, qui est un peu devenu un classique qu'on encourage beaucoup nos étudiants à regarder. Et puis, dans une perspective plus de comparaison internationale, il y a aussi l'ouvrage sur le handicap dans le monde, où là, l'ouverture, on va dire, à la diversité culturelle en lien avec cette question du handicap a permis aussi de contribuer au champ, parce que c'était un peu un manque, un vide dans la littérature scientifique de s'intéresser aux représentations du handicap dans différentes cultures, parfois relativement éloignées des nôtres. Parmi les revues, les articles, il y a plusieurs contributions qui ont été publiées par Denis dans nos revues normandes. Donc j'en profite aussi pour faire de nouveau de la publicité pour les revues. Donc il y a des articles dans le Télémac, plus récemment dans Penser l'éducation. C'était sur l'œuvre de l'Alliance israélite universelle pour l'éducation adaptée. Et puis bientôt, enfin en tout cas, il y a une soumission en cours pour les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle. Donc ça veut dire aussi que voilà, dans les revues du laboratoire, on publie finalement de plus en plus d'articles sur cette thématique. Denis a également été rédacteur en chef de la revue Reliance sur les situations de handicap, l'éducation et les sociétés. C'est aussi une revue qui a beaucoup diffusé les questions, cette thématique du handicap. Concernant les méthodes mobilisées dans les travaux, c'est assez diversifié, c'est-à-dire qu'il y a plutôt quand même un ancrage en anthropologie, un peu dans la lignée de Charles Gardoux et d'Henri-Jacques Sticker, qui est pour moi aussi une autre grande référence. Mais dans les projets de recherche plus récents, c'est plutôt des méthodologies quantitatives qui ont été mobilisées. Donc ça a été le cas pour les projets de recherche portant sur les indicateurs de qualité de vie en éducation inclusive. Et puis, dans le cas de la recherche qui va vous être présentée tout de suite, autour donc des enfants vivant avec une malformation. Donc, je vais laisser la parole à notre conférencier pour pouvoir vous détailler un petit peu tout ça.
Merci beaucoup. Merci Yann. Bonjour à tous. Alors, je vais me déplacer parce que j'aurai besoin de tripoter mon clavier. Alors, d'abord, je voulais remercier les collègues qui ont bien voulu me donner la parole ce matin. Alors, Nathalie Lafont, Julie Delalande, et puis Diane, évidemment. Et puis, merci Diane pour la présentation très élogieuse que tu as bien voulu faire mes modestes travaux. Alors, effectivement, vous avez devant vous quelqu'un qui est un peu, pas clivé, mais qui travaille sur des aspects très littéraires, très historique, très philosophique, et puis en même temps qui travaille sur des questions de statistiques. Et j'essaye de faire matcher les deux tout ensemble. Ça fait partie aussi d'un chemin intellectuel dont je vais peut-être vous parler, chemin faisant. Alors, quel est l'objet de notre affaire ce matin c'est le fait que nous allons réfléchir ensemble sur une donnée qui s'appelle l'espérance de vie scolaire. L'espérance de vie scolaire, je vais définir ce que c'est très rapidement. Et je crois que ça a un lien assez précis avec ce que nous avons entendu ce matin, qui était tout à fait passionnant. Et je crois que, déjà d'entrée de jeu, si on essaye de raccrocher les wagons de ce que nous avons entendu ce matin avec ce que je vais dire maintenant, vous allez voir qu'il y a des tas de notions qui sont importantes à comprendre, en tout cas à expliciter, parce que ce matin, vous avez entendu parler de la nécessité de nommer les choses, de les nommer bien, d'avoir un discours de vérité, y compris auprès des familles. J'ai entendu aussi le fait que l'institution scolaire ne devait pas avoir de regard compatissant, ou en tout cas un regard de pitié vis-à-vis des enfants, qu'il y avait des questions de niveau qui se posaient, qu'il y avait des questions de temps qui se posaient, que le temps du thérapeute, que le temps de l'enfant, que le temps des familles, ces temps-là, pour ne citer que cela, ne sont pas les mêmes. J'ai noté aussi la question du secret partagé avec votre intervention, madame, à propos de la pathologie des enfants, ou en tout cas du syndrome dont ils étaient atteints. J'ai noté un ensemble d'éléments qui, je crois, vont se retrouver dans les quelques éléments que je vais avoir le plaisir de vous présenter. Alors, je crois que, d'abord, le titre peut-être vous peut vous inquiéter, ou en tout cas cette tête de paquet de cigarettes, là, qu'il y a dans la cartouche. Ne pas désespérer d'espérance de vie scolaire, parce que je vais plutôt annoncer des bonnes nouvelles sur une étude qui a été conduite, donc ce qui permet de ne pas désespérer. Et j'ai ajouté « études et commentaires ». Alors ça fait partie de mes préférences intellectuelles, où j'aime bien l'étude et j'aime bien le commentaire, et parfois le commentaire du commentaire. Alors, je vais augmenter l'étude de quelques commentaires assez brefs nous allons voir tout à l'heure. Alors, d'entrée de jeu, d'abord les acronymes. C'est extraordinaire, quand on travaille sur le handicap, de voir comment, d'année en année, on ajoute des acronymes aux acronymes. Alors, on ne va pas les détailler, parce que ce serait un ennui absolu. Mais c'est terrible de voir que cette langue technocratique, sanitaro, éducativo, politico, quelque chose, n'en finit pas de produire des acronymes et des acronymes et des acronymes. Alors je vais essayer de ne pas vous embêter avec ça. Parfois, moi-même, je mélange un peu les pédales, je l'avoue, mais c'est une des difficultés que nous avons rencontrées dans l'étude dont je vais vous parler. D'autre part, si je voulais vous dégoûter, je commencerais par vous montrer des tableaux comme ça, où on aurait des trajectoires de continuité ou de discontinuité d'élèves qui seraient accueillis dans telle ou telle structure, dans tel ou tel dispositif pédagogique, et on aurait des pourcentages. Alors, je vais vous montrer des tableaux, mais je vais essayer de simplifier au maximum la présentation pour vous donner quelques conclusions d'une étude que nous avons conduite à Lyon, à plusieurs, et dont je vais vous parler. Alors, je crois que sur la première diapositive, je l'avais mis. Alors, cette étude, ce n'est pas moi qui l'ai conduite, c'est une équipe de recherche, c'est dans un labo, et nous l'avons conduite avec le registre des malformations en Rhône-Alpes, l'étude a été conduite il y a déjà pas mal de temps, mais on est en train de publier les résultats. Et ce registre-là, des malformations, on en parle beaucoup parce que vous avez sans doute entendu parler la question désormais une affaire des bébés sans bras. Et Emmanuelle Amar, la directrice du registre des malformations, a été très impliquée dans la recherche que nous avons conduite. Et avec des biostatisticiens, avec des statisticiens, enfin, on a toute une ribambelle d'équipes de personnes qui ont travaillé sur cette affaire. Non pas des bébés sans bras, mais sur l'affaire de l'espérance de vie scolaire. Alors, je remercie évidemment l'équipe du registre des malformations, parce que sans le registre, nous n'aurions pas pu conduire cette étude. Alors, En prolégomène, un plan d'abord pour simplifier. Je vais dans un premier temps parler de l'étude et dans un deuxième temps, je vais faire les commentaires et puis l'ouverture sur l'étude. J'ai pas l'heure, il y a quelqu'un qui pourra me driver sur le temps. En gros, ce qui serait bien, c'est d'avoir la moitié pour la première partie, la moitié pour la deuxième, en gros. Merci bien. Alors, l'étude. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'espérance de vie scolaire? Alors, vous voyez cette formule statistique qui est compliquée, mais peu importe la formule. On va commencer par une anecdote. Ce petit garçon qui va à l'école, qui a 3 ans, il y va le premier jour, il est assez content. Deuxième jour, il y va, bon, ça va, c'est pas mal. Puis le troisième jour, il dit à ses parents, j'y suis déjà allé 2 fois. Est-ce que c'est utile que j'y retourne? Ce qu'il ne sait pas, le pauvre petit, c'est qu'il va y aller pendant 16 ans. C'est ça, l'espérance de vie scolaire, c'est la probabilité qu'un enfant aura X années de scolarisation dans sa vie. Et si on fait le calcul pour nous-mêmes, ça peut être un peu vertigineux. Bon, et vous savez que dans le monde, l'espérance de vie scolaire, qui est une probabilité, hein, elle se calcule en général au moment de l'entrée à l'école obligatoire, mais elle peut se calculer avant, suivant le fait que le niveau préscolaire, l'école maternelle, est très répandu ou pas. Comme en France, c'est plutôt très répandu, on calcule généralement l'espérance de vie scolaire chez les tout-petits en disant à 4-5 ans, 3 ans, il aura probablement X années de scolarité. Là, ça fait un peu peur parce qu'on passe beaucoup de temps à l'école. Et puis, il y a des pays où la durée, enfin, l'espérance de vie scolaire, elle se limite à 3-4 ans. C'est-à-dire qu'il y a une différence énorme entre, en gros, les pays en développement et les pays industrialisés. Mais on tend à voir une augmentation de l'espérance de vie scolaire. Alors, en France, si on regarde l'année scolaire cumulée, on a, grosso modo, 13 ans. Ça n'a pas bougé depuis 20 ans, quasiment pas bougé. Les enfants ont une continuité de participation à la vie scolaire. Ce n'est pas toute l'éducation, on est d'accord, mais c'est tout de même une part de l'éducation qui est à peu près stable. Et si on inclut le pré-primaire, en moyenne, si on est en France et qu'on grandit en France, on aura un peu plus de 16 ans de scolarité. Et là, il s'agit des données de l'ISU, Institut des statistiques de l'UNESCO, de 2016. Alors, c'est un phénomène d'espérance de vie scolaire qui touche tous les pays du monde, parce qu'elle peut se mesurer partout. C'est un indicateur qui est intéressant, qui est insuffisant, mais qui est intéressant. Il n'y a pas d'indicateur parfait, il n'y a pas d'indicateur holistique qui nous permet de tout savoir. Hein. On fait du carottage. Hein. Et c'est aussi assez symptomatique d'un effet qui s'appelle l'effet de cheminée, qui est le suivant. Dans le monde, il y a une tendance à l'allongement de ce qu'on appelle la cheminée scolaire, c'est-à-dire que tous les États, on peut le dire comme ça, ont un aspirateur démographique qui fait qu'une démographie avec une partie de la population avec l'obligation scolaire entre dans la cheminée et a tendance à vouloir sortir le plus haut possible, le plus tard possible de la cheminée. C'est pour ça qu'il y a des effets d'augmentation de la hauteur de la cheminée scolaire, ce qu'on appelle l'effet de cheminée. Ça suppose donc que dans une très grande partie des pays du monde, il y a ce désir, justifié ou pas, c'est pas le débat, justifié ou pas, il y a ce désir, parfois cette obligation, de faire rentrer la population à l'intérieur de cette cheminée et d'y rester le plus longtemps possible. C'est pour ça que l'indicateur d'espérance de vie scolaire est un indicateur, à mon sens, important. Alors, vous aurez sans doute matière à critiquer d'entrée de jeu, et c'est bien d'exercer la critique, c'est de dire que c'est peut-être une vision un peu simpliste de la continuité scolaire. Et c'est sans doute vrai, c'est une vision simple, peut-être simpliste de la continuité scolaire, et parce qu'elle fait l'impasse sur d'autres aspects. Alors il y a deux aspects très importants qu'on oublie parfois d'envisager alors que c'est des choses assez structurantes. C'est ce qu'on appelle, le terme n'est pas très beau, l'expression n'est pas très belle, l'efficacité interne, c'est-à-dire est-ce que l'école permet d'apprendre ce qu'on est censé apprendre. On peut rester 20 ans à l'école en apprenant très peu de choses si l'enseignement est de mauvaise qualité ou si on a des difficultés d'apprentissage. Et quand c'est les deux cumulés, ça peut donner des résultats qui sont décevants. Donc l'efficacité interne, ça se résume à la phrase suivante. Est-ce que j'ai bien appris ce que je suis censé apprendre ? Alors l'étude ne mesure pas l'efficacité interne. Elle s'intéresse au fait de savoir si des enfants nés avec une malformation, on va voir pourquoi on a choisi ces enfants-là, sont restés longtemps à l'école ou pas. À l'école ou pas vraiment à l'école. On va regarder. Et puis l'étude ne s'intéresse pas non plus, pas de tromperie sur la marchandise, elle ne s'intéresse pas non plus à ce qu'on appelle l'efficacité externe, c'est-à-dire est-ce que ce que j'ai appris me permet de m'insérer dans la société. Ça, c'était deux éléments du monde scolaire très importants, efficacité interne, efficacité externe. Est-ce que j'ai bien appris ce que j'étais censé apprendre? Est-ce que ça me permet de vivre bien, de bien m'insérer dans la société dans laquelle je grandis? Alors, ce que nous avons cherché à savoir, c'est s'il y avait une discontinuité, des ruptures, ou un abandon précoce de l'école, au sein d'une population d'enfants avec des caractéristiques très spécifiques. Donc c'est une étude très spécifique, parce que la différence entre une étude sensible et une étude spécifique, une étude sensible c'est qu'elle elle cherche un peu tous azimuts, là on cherche sur un tout petit segment, et comme toute étude spécifique, elle a un côté très frustrant par rapport à la richesse de ce que nous avons entendu ce matin, sur tous les aspects qui ont été développés ce matin, ce que je vais vous expliquer sera très frustrant. C'est un peu aussi le lot à payer parfois pour des études. Alors, pourquoi nous avons décidé de nous intéresser à l'espérance de vie scolaire ? Parce qu'il y avait eu déjà des tentatives qui avaient été faites, très intéressantes, notamment celle d'un économiste qui s'appelle Filmer, qui avait comparé des États et qui avait essayé de mesurer l'espérance de vie scolaire d'enfants nommés en situation de handicap. Ça pose un problème de définition dans 13 États. Alors, simplement, il avait utilisé des données de seconde, voire troisième main, des données anciennes. Il avait essayé de refaire des trajectoires. Il avait montré... à travers cette étude, qui est une étude pionnière, il faut lui rendre à César ce qui revient à César, qui avait montré une fragilité assez massive de l'espérance de vie scolaire chez des enfants labellisés, on va l'appeler ça comme ça, un peu par provocation, en situation de handicap. Alors, il avait eu des difficultés de qualification des populations pour son étude. Alors, en général, on rencontre un peu partout ces problèmes de qualification des populations dès lors qu'on travaille sur des indicateurs sur le handicap. Alors, on a des qualifications qui sont souvent floues, et ça peut correspondre à une préoccupation éthique. Je l'ai mis entre guillemets parce que je ne suis pas sûr que ce soit vraiment... Nietzsche parle parfois de moraline, c'est-à-dire d'une morale à bon compte. Et quelquefois, on pourrait mettre un peu les pieds dans le plat. Tout à l'heure, on discutait avec un collègue et on disait, quand on aime, on compte. Eh bien, on compte quoi ? On compte qui ? Et le problème, c'est de vouloir compter des situations de handicap qu'on n'arrive pas à dénombrer. Et lorsqu'on n'arrive pas à dénombrer, lorsqu'on n'arrive pas à qualifier, on n'arrive pas à travailler dessus. Alors... Il y a un effet en même temps très vertueux et très moral que je partage, c'est le fait de ne pas vouloir étiqueter les enfants selon des syndromes, selon des pathologies, selon des choses qui sont parfois très stigmatisante. Alors ça relève évidemment d'une préoccupation éthique tout à fait importante et qu'il faut que je respecte absolument. Il y a un scrupule à catégoriser les enfants, mais en même temps ce scrupule doit être parfois dépassé pour pouvoir travailler sur des populations spécifiques. Bon, parce qu'autrement, on risque de mettre un couvercle silencieux sur des réalités qu'on ne voit plus. C'est pour ça que j'ai mis « quand on aime, on compte », c'est un peu pas par provocation, mais c'est par souci aussi. Ce matin, on l'a dit, hein, il faut aussi avoir un discours de vérité. Et ce discours de vérité, c'est un discours de raison. Parfois, il faut accepter de nommer les choses. Camus disait « mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde ». Alors, quel est l'objectif de l'étude? C'est d'évaluer l'espérance de vie scolaire sur des trajectoires de scolarisation et des trajectoires de scolarisation d'une population d'enfants. Alors, quelle est la population? C'est les enfants qui vivent, en général, on dit les enfants nés vivants, parce qu'il y a des enfants qui naissent avec une malformation, qui ne vivent pas. Hein. Mais des enfants nés vivants et ayant vécu avec une malformation jugée invalidante par la sphère médicale pour une présence harmonieuse dans le monde scolaire. Alors, le fait de naître, pour parler très simplement, le fait de naître avec un ça peut être compté comme une malformation, le fait d'avoir un petit doigt supplémentaire, c'est un coup de bistouri, c'est rien. Le fait de naître parfois avec une déformation d'un pied, ce qu'on appelle communément un pied beau, bon, on ne prend pas. Alors on va voir comment on a organisé le seuil d'inclusion de la population. Alors la population de l'étude, elle a fini par se limiter à 197 enfants extraits de la base du registre. Il était très difficile de travailler avec les données du ministère de l'Éducation nationale au motif que, un, le ministère ne donne pas ou très peu les données. On y reviendra. Et là, on a absolument, dans le domaine de la recherche en éducation, on a à réagir vis-à-vis de ça. Et d'autre part, les catégories utilisées par le ministère de l'Éducation nationale sont des catégories amples, des catégories molles et des catégories d'élèves qui sont problématiques du point de vue du calcul spécifique de l'espérance de vie scolaire. On aurait pu travailler sur des catégories molles. C'est ce qui se fait d'ailleurs au ministère. Ça apporte malheureusement pas grand-chose. Alors, comment on a fait pour sélectionner les enfants? D'abord, on a utilisé les données du registre des malformations, qui comporte des dizaines de milliers de cas. On a sélectionné des années d'enfants, de naissance d'enfants qui ont été scolarisés au moment du passage à la loi de 2005. Alors, pour éviter d'avoir trop peu d'enfants, on a pris 3 années de naissance, des années qui sont indiquées ici, 97, 98, 99, et on a essayé de retrouver la trace de ces enfants, mais là, on va voir que ce n'est pas si facile que ça, pour pouvoir établir le parcours, la continuité de leur parcours scolaire et essayer d'établir des éléments d'analyse. Alors, l'étude, elle couvre 4 départements, la Loire, l'Isère, la Savoie et le Rhône. Alors, c'est le Rhône qui fournit le plus de naissances, vous imaginez bien. Alors, on a pris la définition d'une malformation, de ce que c'était. Alors, ça veut dire que ça exclut, hein, ça exclut les enfants porteurs d'une malformation qui n'ont pas de conséquences sur l'acquisition d'autonomie propre au domaine scolaire. Les enfants qui étaient atteints d'hypospadia, syndactylie, fente palatine, pied beau, etc. Doigts surnuméraires. Et puis, ça exclut aussi les enfants qui ont une pathologie acquise et qui ne font pas l'objet d'un recensement systématique en France. Alors, on ne travaille que sur la population sur laquelle nous travaillons. c'est-à-dire que l'étude ne mesure que ce qu'elle est censée mesurer. C'est le caractère spécifique de l'étude. Donc là encore, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, c'est le caractère peut-être un peu décevant qui pourrait apparaître à vos yeux. Donc on a une population source d'enfants porteurs de malformations dans 4 départements. On a dans la base extrait 2600 cas, quasiment 2700 cas. Ces cas-là ont été réduits pour avoir des malformations très invalidantes et l'étude va porter sur ces cas qu'il va falloir contacter, et c'est là que la difficulté arrive, parce qu'en éducation, on n'est pas vraiment habitué à ce que connaissent les médecins, à ce que connaissent les professionnels de santé publique. C'est-à-dire que pour contacter les familles, on ne peut pas les contacter comme ça. Il faut écrire aux maternités. Il faut avoir l'accord des maternités pour pouvoir contacter les familles. Il faut envoyer des lettres. Il faut avoir des autorisations du médecin accoucheur pour contacter les familles. Il faut avoir une autorisation de la CNIL. Toute barrière qu'on a volontairement voulu affronter, parce qu'en éducation, on n'est pas habitué à ça. Et on a obtenu les autorisations pour contacter téléphoniquement les familles et avoir avec elles des entretiens sur le parcours de leur enfant. Tout à l'heure, on parlait d'expertise des familles. Le parti pris de l'étude, c'était aussi de dire les familles savent. Ce n'est pas seulement l'institution qui sait, mais les familles savent. Alors, on avait préparé un questionnaire qui a été présenté à la CNIL, qui a été validé. Enfin, ça a pris beaucoup de temps. Et on a lancé, après le tri que nous avons opéré, lancé des questionnaires. Alors, on a eu des perdus de vue. On a eu à peu près 17% de perdus de vue pour des raisons très simples. C'est que les familles qui ont des enfants nés avec une malformation ont souvent eu besoin de déménager, parce que le temps a passé, pour se rapprocher soit d'écoles, soit d'établissements, soit de centres médicaux, des enfants qui sont décédés. Et puis des perdus de vue dont on n'a pas de on ne connaît pas les raisons de ces perdus de vue. Alors, c'est classique dans ce type d'études d'avoir des perdus de vue. Alors, bon, la méthode de recueil, je l'ai à peu près expliquée. Donc, je passe là-dessus. Alors, je passe tout de suite. D'abord, les entretiens. Les entretiens sont très intéressants parce que, d'abord, ils durent très longtemps. Les familles racontent par le menu toutes les difficultés qu'elles ont rencontrées, soit avec le secteur médico-social, pour le dire vite, soit avec l'école, soit avec le monde médical. Et il y a quelquefois, on peut le dire, des entretiens qui ont été très, très marquants hein, pour les enquêteurs. Alors, on a tous participé à des entretiens, on se les a partagés, mais des entretiens qui sont parfois un peu bouleversants, on doit bien le dire. Alors, sur l'espérance de vie scolaire générale d'enfants nés avec une malformation invalidante dans 4 départements Rhône-Alpes, et on ne s'intéresse qu'à cette population, on a des taux de scolarisation qui diminuent peu lorsque les enfants grandissent. Alors, lorsqu'on prend le VS général, c'est-à-dire qu'on prend les établissements médico-sociaux et on prend l'école. C'est-à-dire qu'on a une participation, globalement, de ces enfants qui sont nés dans ces années-là, qui est assez stable. C'est-à-dire que les institutions, à travers soit le secteur privé ou le secteur public, les écoles privées, écoles publiques, on a tout pris. Le secteur médico-social, ça peut être associatif, non associatif, on a tout pris. Eh bien, ces enfants sont plutôt accueillis dans des structures. On s'attendait à avoir, on voulait éviter le biais de sélection du ministère de l'Éducation nationale qui fait des études sur des enfants déjà pris en charge. Nous, on se disait, peut-être qu'on va avoir des enfants qui sont sous les radars. Eh bien non. En général, les enfants sont accueillis dans des structures. Alors, les taux les plus bas sont observés pendant la période d'âge préprimaire, c'est-à-dire l'école maternelle. C'est là où on a un petit déficit de scolarisation. Alors, pour un truc un peu technique, souvent on parle de taux net ou de taux brut. Peut-être que vous en fichez complètement, mais c'est important. Un taux net, c'est on prend l'âge légal d'un enfant qui est, on va dire, au CP, on a 6 ans à peu près. Hein, on a 6 ans, donc le taux net, c'est tous les enfants de 6 ans sont-ils au CP. Taux brut, c'est tous les enfants qui sont au CP. Ils peuvent avoir 15 ans, 17 ans ou 4 ans, peu importe. Taux brut, c'est ça. Vous voyez, c'est... Alors là, on travaillait sur des taux bruts. C'est très important. Lorsqu'il y a des refus d'inscription à l'école maternelle, lorsqu'il y a une baisse à l'école maternelle, c'est lié à des refus d'inscription. On a dit tout à l'heure, il y a quelques refus. Là, il ne faut pas oublier que c'est une étude rétrospective. C'est-à-dire qu'on regarde dans le rétroviseur, on regarde ce qui s'est passé avant. Et sans doute que c'est assez rare. Là, on n'a eu que 5 cas de refus très clairs. Alors, ça change un peu sur l'espérance de vie scolaire en milieu ordinaire. Tout à l'heure, la personne parlait du milieu ordinaire. Le collègue qui était là tout à l'heure disait que il y a quelquefois peut-être une espèce d'accent qui serait un peu idéologique sur l'insistance à scolariser en milieu ordinaire. Il a effectué une critique, il exerce, il avait donné son avis. Et là, on pourrait dire, enfin, il y a une tendance qui est assez claire, c'est que les taux baissent avec l'avancée en âge pour l'école ordinaire. On était à 91% en milieu ordinaire en petite section maternelle. On n'est plus qu'à 71% en milieu ordinaire à la fin du CM2. Bon, alors, est-ce que c'est étonnant? Est-ce que c'est pas étonnant? On s'attendait à ça. L'hypothèse qu'on avait posée d'une réduction de scolarisation, oui. Déjà, je me dépêche. Merci. Alors, différence. Alors, là où je vais peut-être apporter des choses un petit peu intéressantes, c'est aussi le rôle des statistiques de tester des hypothèses sur non pas la causalité, parce que corrélation n'est pas causalité, mais sur le lien statistiquement significatif entre plusieurs éléments. Et il y a une chose qui nous a un peu étonnés dans cette étude, c'est que les enfants ont une durée de scolarisation différente suivant qu'ils sont hospitalisés pour des durées, enfin à l'hôpital, non pas à l'hôpital de jour, mais hospitalisés comme vous, chez vous, madame, les enfants qui sont à l'hôpital. Les enfants qui sont à l'hôpital pâtissent moins que les enfants qui sont à l'hôpital de jour, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Et ça, c'est intéressant parce que on n'aurait pas pensé ça. Et on a une chose qui est aussi assez frappante, c'est que sur la période de ces enfants-là, rétrospectivement, ces enfants ont un redoublement plus important suivant qu'ils sont suivis en hôpital de jour versus les enfants qui sont hospitalisés, qui ont des durées d'hospitalisation entières, sans stratégie de compensation. Alors, quand on parle, par exemple, professionnels de santé, c'est-à-dire les professionnels qui sont en cabinet, qui sont libérales, les orthophonistes, les ergos, les kinés, etc., ou les psys. Alors, on voit d'ailleurs une augmentation. On a fait ce travail aussi de voir quelle était la fréquentation de ces professionnels, notamment dans le secteur libéral, suivant l'âge des enfants, et il y a des poussées des psys qui sont plutôt au niveau du collège. Et l'orthophonie, la poussée, est plutôt à l'époque de l'école primaire. Alors, ce qui est très... Les deux résultats les plus frappants, c'est le fait que le redoublement et l'espérance de vie scolaire sont corrélés au fait que les enfants sont hospitalisés en hôpital de jour plutôt qu'à l'hôpital. C'est-à-dire que ce qui est censé aider à la scolarisation des enfants devient un empêchement. C'est ça qui est intéressant. Alors, les parents. Les parents, on parlait d'expertise des parents. Les parents, quand on les interroge à la fin du questionnaire, on a une stratégie de discussion avec les parents et on a traité statistiquement tout ça. Les parents disent, mais oui, ça, on avait compris. On n'est pas étonné du tout du fait que cette espérance de vie scolaire soit obérée, entravée par l'hospitalisation de jour. Et c'est-à-dire que l'intuition parentale est vérifiée statistiquement. Bon, alors, en même temps, il faut être prudent parce qu'il faut conduire d'autres études sur l'efficacité interne, c'est-à-dire est-ce que les enfants ont des performances scolaires qui sont différentes suivant l'hospitalisation de jour ou suivant l'hospitalisation qui n'est pas hospitalisation de jour. Alors, il y a quelque chose aussi de très intéressant, c'est de voir l'effet paradoxal de la compensation. C'est-à-dire qu'une compensation qui rend la vie, l'espérance de vie scolaire plus réduite, ça peut interroger. Mais c'est trop tôt, c'est une étude exploratoire qu'on a conduite. Et on parlait ce matin avec notre collègue ici, Clotilde, hein, c'est ça ? On parlait de la perte de chance. Je crois qu'il y a un grand travail qui va être fait dans les décennies qui viennent. Je pense, je ne veux pas faire de prophétie, mais peut-être un peu de prédiction. Je pense que la réflexion sur la perte de chance, c'est quelque chose qui va se développer, et notamment en éducation. Et le préjudice subi, voire la responsabilité. Ce matin, on parlait de responsabilité des institutions, mais aussi responsabilité des familles, peut-être, sur la perte de chance. Sans doute que le paysage va se modifier et que bien des choses vont se traiter dans les prétoires. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein. Alors, je passe très rapidement à la deuxième partie, les commentaires. Je crois que la question de la discontinuité scolaire au sens temporel du terme, et je ne parle que de cet aspect-là, pourrait être mieux prévisible, je n'ai pas dit totalement, mais mieux prévisible. On pourrait mieux l'anticiper si, et je crois qu'il y a quatre conditions, il y en a peut-être davantage. La première, c'est que l'état des populations soit connu, c'est-à-dire que on a l'impression d'un tout venant. Et là, d'ailleurs, quand on interroge les instits dans les écoles, à la campagne, je vais des fois dans les écoles, à la campagne ou en ville d'ailleurs, qu'on dit ben, cette année, alors est-ce qu'on va avoir des diagnostiqués? Est-ce qu'on va avoir des dossiers MDPH? Quel type d'enfants on va recevoir? On n'est pas formé et ça fait des années qu'on entend ça. J'ai interrogé la DEP, la directrice de la direction de la prospective, au ministère de l'Éducation nationale, en disant « Je veux connaître la prévalence des cas que vous avez par académie. » Pas de réponse. Alors j'ai fait l'idiot, j'ai dit « Vous n'avez sans doute pas reçu mon message, donc je me permets de vous redemander. » J'insiste. Ça, c'est très important. On y reviendra. Deuxième chose, la question des étiologies. Tout à l'heure, on a dit les familles, les professionnels ont une difficulté avec la connaissance du handicap. On a conduit une étude avec le docteur Forjard, qui est pédopsychiatre, sur le besoin du secteur enseignant de connaître les pathologies psychiatriques, psychiques, troubles du comportement. Est-ce que les profs, est-ce que les instits, profs des écoles ou professeurs du secondaire, est-ce qu'ils veulent connaître mieux les pathologies? Oui, il y a une demande. Et d'un autre côté, est-ce que les psychiatres ont l'impression d'être dépossédés suivant si les profs ou les instits connaissent mieux les pathologies? Pas du tout. Donc ça veut dire aussi qu'il y a, se posent des questions déontologiques, éthiques, de ce qu'on appelle la clause du secret partagé. Clause du secret partagé. Dans quelle mesure cette clause peut être adoptée ou pas? C'est une vraie question qui va se poser. Troisième point. Il faudrait que la couverture de santé publique, j'ai bien dit, de santé publique, soit assurée de manière systématique et exhaustive. C'est-à-dire que pour que les populations entrent, quand les populations entrent dans la cheminée scolaire, qu'on sache qui on reçoit. Ça veut dire aussi que le diagnostic précoce, je sais qu'il y a des gens qui sont hostiles au diagnostic précoce, pour des raisons d'étiquetage, etc. Je ne suis pas sûr que le raisonnement soit tout à fait juste. Alors, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que c'est un décalco, manie, ou est-ce que c'est un tatouage? Je crois qu'il faut accepter l'idée que nommer, catégoriser, ça n'est pas nécessairement stigmatiser. on a peut-être à réfléchir sur cette question. Deuxième commentaire, très bref. Rapport de l'Académie de médecine. Tout ça, ce que j'ai dit non prescriptif, évidemment que c'est prescriptif. Mais rapport de l'Académie de médecine, l'état de la médecine scolaire en France est catastrophique. Catastrophique. Je lis le rapport. Alors, le taux des visites pour les élèves de 6 ans est estimé à 71% d'après enquête récente du ministère de l'Éducation nationale. Alors c'est le rapport de l'Académie de médecine qui cite un syndicat, 50% des enfants auraient bénéficié d'un dépistage infirmier et d'un examen médical, et où ? Et en réalité, selon le département, ces chiffres varient de 0 à 90%. C'est-à-dire qu'on a une couverture en santé publique de la population scolaire qui est en dessous de ce qui est normalement exigé, en dessous de la loi. Alors qu'il faudrait monter le niveau d'exigence, on n'est même pas capable de faire le minimum. Alors, on est bien loin de pouvoir arriver à ce que je prétends. Troisième commentaire, je me grouille, hein, parce que faut que je me dépêche, hein, c'est ça. Il faut qu'on travaille sur ce qu'on appelle le data mining. C'est-à-dire que les chercheurs, c'est notre boulot. Notre boulot, c'est d'aller explorer la manière dont on construit les données, la manière dont on construit les statistiques, la manière dont le citoyen est informé aussi. Data mining, c'est la fouille de données, la construction et la fouille de données. Je suis de très près toutes les affaires de santé publique liées au handicap, aux malformations, etc., du fait de mon très grande proximité avec le registre, mais on voit bien que la question des données, c'est un outil qu'on doit absolument rendre plus ouvert, plus compréhensible. Et en éducation, on a un peu tendance à être à la traîne du ministère. Qui c'est qui nous donne les chiffres ? C'est le ministère. Voilà, l'ADEP nous donne ses chiffres, désolé, mais on veut savoir aussi comment ces chiffres sont construits. C'est l'indépendance de la recherche. Ça doit aussi aller chercher cela. Ça, c'est très important. Alors, c'est la question de Staline ou Pape. Quand la Fédération des 10, très militante, très véhémente, dit « Mais, Madame le ministre, Monsieur le ministre, vous ne voyez pas qu'en France, il y a peut-être une inflation du discours, mais il y a X milliers de cas d'enfants dyspraxiques, dyscalculiques, etc., les 10. » Est-ce que vous allez faire semblant de ne pas voir ? Est-ce que vous allez continuer comme ça ? Là, en réalité, c'est un calcul, c'est une guerre des chiffres, c'est la guerre de la prévalence. Combien on est ? C'est la question de Staline au pape. Le pape, combien de divisions ? Mais si les populations disent « nous sommes tant et nous pouvons prouver avec des méthodes claires, objectivables, reproductibles, que nous sommes peu nombreux, un peu nombreux ou très nombreux », c'est pas la même chose que simplement de clamer, de prêcher. Le problème, ce n'est plus un problème de prêcher, le problème est de prouver. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, y a des zones, d'ailleurs, qui ont été très, très explorées. C'est la zone d'un syndrome, la T21, puis les trisomies mosaïques, qui ont fait l'objet d'études hyper spécifiques et qui ont permis aussi d'avancer dans le domaine didactique, dans le domaine psychologique. Et aujourd'hui, on voit aussi des syndromes de trisomie 21, par exemple, de personnes atteintes de trisomie 21, extrêmement mieux médiatisées, mieux connues. Et puis, il y a des zones non explorées. C'est là que je vais vous emmener dans les 2 minutes qui nous restent, c'est ça ? 5. Ah, parfait. Première zone. Alors, on commence à en parler. C'est syndrome d'alcoolisation fœtale, avec une prévalence qu'on ne connaît pas. SP France a annoncé des chiffres. Il faut regarder. Je ne suis pas épidémiologiste. Mais ce qu'on appelle les enfants SAF, j'aime pas l'expression, c'est pas agréable de parler comme ça. Les enfants porteurs vivants avec syndrome d'alcoolisation fœtale, c'est une maladie. C'est un syndrome très stigmatisant pour la maman et on en parle assez peu. Or, en réalité, il semblerait que le nombre d'enfants ayant des troubles cognitifs, ayant des troubles de l'apprentissage, soit un nombre d'enfants beaucoup plus élevé qu'on l'imagine, et que cette population dans les écoles ne soit pas prise en compte. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut dire, voilà, cette année, j'ai 3-10, ce machin, et puis j'ai 2 SAF. C'est sans doute pas comme ça. Mais il faut sans doute qu'on accepte l'idée qu'on a du chemin à faire sur des populations qui sont des populations méconnues. Alors évidemment, ça c'est le côté un peu terrible hein, du syndrome d'alcoolisation fœtale qui avait un côté un peu sympathique, mais qui a un côté embêtant. Un autre problème, on en a parlé tout à l'heure, un problème tabou, c'est la question de la consanguinité. Si je regarde, globalement, 1/5 de la population humaine dans le monde vit dans des communautés ayant une préférence pour les mariages consanguins, pour des raisons législatives, pour des raisons patrimoniales, pour des raisons religieuses, pour toutes sortes de raisons. Bonnes ou mauvaises, on n'est pas là pour les juger, hein, pour regarder le réel. La consanguinité est une tendance sociale profondément racinée par une population au Moyen-Orient, en Asie occidentale, en Afrique du Nord, parmi les émigrants de ces communautés résidant aujourd'hui en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Or, lorsque on regarde les bases de données, lorsqu'on peut y avoir accès, et c'est normal que ces bases de données soient protégées, qu'elles soient cryptées, etc. Moi, je n'ai pas accès aux bases de données. Mais lorsque vous discutez avec des gens qui travaillent dans ce domaine, le nombre de troubles génétiques liés à la consanguinité, ça fait que l'école accepte, et c'est normal, des populations, mais des populations qui fabriquent des conditions de survenue du handicap qui échappent à l'école. Et sans doute qu'en éducation, on a aussi à travailler sur des questions qui sont un peu en amont de l'entrée dans l'école. Alors, ça, c'est une problématique importante. Alors, assez curieusement, la Banque mondiale a travaillé là-dessus. Vous savez que la Banque mondiale travaille pas mal sur le handicap et conduit des études assez libres et assez intéressantes sur le « blood marriage hein ». Ah, celui-là aussi, j'aimerais pouvoir travailler là-dessus dans les années qui me restent à pouvoir faire de la recherche. La question des plagiocéphalies, qui est un trouble très intéressant, malheureusement, parce qu'il est lié aux outils de puériculture. Je vous la fais courte. Vous accouchez, vous restez quelques jours à la maternité. À votre boulot, on vous a offert un super siège auto, vous savez, avec des molettes et tout ça. À la pharmacie, vous avez même acheté un biberon coudé. Et puis, les grands-parents se sont achetés des billets d'avion pour partir en Australie ou je ne sais pas où, pas cher, hors saison. Donc, vous avez accouché un peu toute seule, vous restez 3 jours. On revient vous chercher à la... Vous voyez ce que je veux dire quand je vous raconte ça ? C'est pas totalement invraisemblable. Et vous sortez de la maternité, vous avez mis votre petit dans son siège qui fait couchage, qu'on relève, etc. Et puis on le prend très peu dans les bras. La tête est toujours en appui. Et puis, syndrome du monde plutôt industrialisé, on va donner à manger à heure fixe, on va plutôt pas allaiter. Et il y a une checklist comme ça qui a été décrite aux États-Unis avec des gamins qui ont une manière d'être éduqués assez proche d'un truc assez mécanique. Et la tête est toujours en appui, parce qu'on ne les porte pas. Les enfants, ils ne sont pas à porter leur tête sur des petits tapis. Et ces enfants, on les retrouve après avec des difficultés d'apprentissage, des difficultés d'attention. Ils mangent toujours la même chose, toujours à la même heure. Et ce syndrome-là, il est lié à la fois au monde contemporain, aux outils de puériculture. Et voilà une population. C'est des gamins qu'on emmène à poussette aussi à l'école maternelle parce que tout est mesuré. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter pour regarder les crottes de chien, il ne faut pas s'arrêter. On sait le trajet maison-école, ça dure 2 minutes. S'il se met à... Non, on le met dans la poussette. Vous avez regardé la taille des pieds des enfants dans les poussettes maintenant. ils ont des grandes chaussures. C'est-à-dire qu'ils savent jouer au foot, les gamins. Mais ils montent en même temps dans les poussettes. C'est assez curieux, ça. Donc, syndrome de plagiocéphalie, c'est-à-dire un mode éducatif antéscolaire qui fabrique aussi de la difficulté, dont on va hériter à l'intérieur du monde scolaire. Voilà sur quoi, aussi, j'aimerais qu'on travaille. Voilà, c'est tout. J'espère que j'ai tenu le... Voilà, merci beaucoup.